À voix nue, Caroline Brouet,
Carmen Castillo, chilienne et française, cinéaste, toujours en apprentissage, et quelquefois, j'écris.
Premier épisode, La Quinta, ou La Belle Époque. Carmen Castillo, votre histoire personnelle croise l'histoire collective, celle qu'on appelle l'histoire avec un grand H. La musique de votre nom évoque immédiatement l'Amérique latine, même si aujourd'hui vous êtes française. Votre pays d'origine, vous l'avez dit, c'est le Chili. Vous êtes née à Santiago du Chili le 21 mai 1945. Vous y avez grandi, vous avez fait des études d'histoire, vous avez milité à gauche pour la victoire de Salvador Allende, auprès de qui vous avez travaillé quand il a gagné l'élection présidentielle le 4 septembre 1970. Et donc vous êtes resté proche jusqu'au coup d'État du général Pinochet, le 11 septembre 1973. Il y a aujourd'hui, date de la première diffusion de cette avenue, pile 50 ans. La répression des opposants à la dictature qui a suivi vous a touché de plein fouet et dans votre chair. Vous avez perdu l'homme que vous aimiez, l'enfant que vous portiez. Vous avez été expulsé du pays, blessé en 1974. Ces événements dramatiques, cette déchirure et cette mémoire fracturée, vous les avez racontés dans plusieurs œuvres. Un récit publié en 1980 et réédité par Verdier en 2023 qui s'intitule « Un jour d'octobre à Santiago ». Et puis il y a eu un film où vous racontez toute cette histoire jusqu'à quasiment aujourd'hui, en 2007 en l'occurrence. Ce film a été tourné, il est sorti en 2007. Et il s'intitule « Rue Santa Fe ». Vous êtes arrivée en France en 1977, vous êtes devenue écrivaine, réalisatrice. Et quand on regarde vos films, Carmen Castillo, quand on lit vos livres, on se rend compte que si vous êtes physiquement ici, votre esprit est toujours un peu là-bas, à la poursuite inlassable, j'ai envie de dire, du passé, en tous les cas d'un passé, de cette mémoire d'un Chili révolu, d'un Chili qui fut le témoin d'intenses combats, aussi bien pour la liberté que pour la démocratie. D'où ma première question. Dans quel monde vous vivez et de qui, de quoi est peuplé ce monde?
Je pense, et je l'ai appris les premières semaines de mon arrivée en France, le premier temps de mon exil, j'ai compris que le temps n'était pas linéal, qu'il n'y avait pas passé, présent, futur, que le temps était, comme me disaient Deleuze, Guattari ou mes lectures, était cette irruption involontaire, permanente, d'une mémoire fragmentée, des morts, mes fantômes, mes esprits. Et ici, nous parlons devant un mur bleu, bleu mexicain, mais aussi le bleu de cette maison qui va marquer, comme vous l'avez dit, la déchirure, la fin de la vie d'une femme libre, amoureuse, militante, le 5 octobre 1974. Donc je vis intensément cette idée que ma géographie est maintenant une cartographie d'amour, d'amitié, de fidélité. J'adore me réveiller à Paris, mettre France Culture, lire les journaux. Non, c'est vrai, parce que tout cela, tout ce que j'apprends, avec quoi je dialogue, ma tête se met en marche et réfléchit et pense, je ne l'ai pas à Santiago. Et je ne peux pas vivre sans ces séjours de plus en plus longs que je fais au Chili. Parce que, ça c'est plutôt récent, cette cartographie, cette géographie d'amitié, d'action, de travail, de pensée, dialogue en permanence entre l'ici et l'ailleurs. Et j'ai du mal, il faut que le cerveau arrive à reprendre le français, reviennent, ou quand je vais là-bas, reprennent l'espagnol. Et donc, c'est à mon âge, déjà très âgé, que ça commence peut-être à se mélanger, non ? Et que j'ai moins besoin de cette schizophrénie dans laquelle, une fois que j'étais là-bas, et puis voilà, tout s'intensifiait de souvenirs, d'actions, de choses à faire, de rencontres. Et quand j'étais ici, c'était ce temps merveilleux de la création. C'est-à-dire que Paris m'a permis toujours de donner forme à ce travail. L'exil en France m'a fait le cadeau du cinéma et aussi de l'écriture, d'abord en français. Seulement maintenant, j'arrive à l'espagnol. Donc, voilà, je crois qu'on peut être citoyenne des deux pays et en être fière.
Je vais néanmoins vous faire plonger là-bas, uniquement là-bas pendant un temps, en tout cas pour cette première émission, Carmen Castillo, puisque on va plonger quand même dans votre enfance, dans ce Chili d'avant. Le Chili que vous avez connu quand vous étiez petite, est-ce que quand vous pensez à ce Chili-là de votre enfance, c'est des souvenirs heureux ? Par exemple, quand vous repensez à la maison qui s'appelait, je ne sais pas si elle s'appelle encore, vous allez nous le dire, La Quinta ?
Oui, ou La Quinta, c'est le rêve. La Quinta n'est plus dans notre vie, n'est plus dans la famille. Et apprendre à perdre, c'est possible, on arrive. Parfois c'est moins difficile qu'on ne le croit dans la douleur de la déchirure. Ce temps de l'enfance, ce temps de cet espace entre une petite ferme, mais dans les alentours du centre-ville, avec des tramways ou des... quelques micros, autobus qui passaient, et dans les flancs de la cordillère des Andes. Après, ça s'est appelé la Reine, le quartier de mon enfance. Aujourd'hui, il s'appelle la Reine. Cette petite ferme...
Bâtie par votre grand-père ?
Bâtie par mon grand-père Castillo et l'abuelo Eduardo Castillo, que j'ai peu connu, et où régnait la figure magnifique de mi abuela.
La grand-mère.
L'abuela, avec sa cape noire tricotée comme ça, très grande, assez imposante, qui ouvrait les portes de cette bâtisse avec des murs en adobe, donc terre, paille, construite, bâtie par le grand-père qui n'était pas architecte.
Et recouverte de chaux.
Oui, de lait de chaux. Et avait plusieurs entrées avec des chemins de peupliers qu'il a fallu changer parce qu'après les peupliers, les racines, avaient des petits canons, des arbres fruitiers, la saveur des abricots de mon enfance, jamais plus. Comme les cerises corazón de paloma, non, les cerises blanches avec des traits rouges, des énormes cerisiers, les noyers, deux chiens. Et c'est dans cet espace que mon père, le jeune architecte, avant même d'être titulé, va construire sa maison.
Donc c'était pas qu'une maison, c'était une communauté, puisqu'il n'y avait pas une seule maison, en tous les cas à partir des années 50, mais trois, je crois.
Il y avait trois d'abord, et à la fin, juste avant le coup d'État, il y a eu une vraie communauté de jeunes couples de mon âge qui a été très importante, parce que cette vie solidaire, fraternelle de gens de gauche persécutés, mais qui n'étaient pas tous obligés, la plupart est parti en exil ou a été emprisonné, mais d'autres ont pu rester. Ou mon père est revenu d'exil. La Quinta, qui à ce moment-là s'appelait la Quinta Michita, C'est comme ça qu'on appelait ma grand-mère, Michita. Elle a protégé.
C'était un refuge.
Un refuge d'énergie, de respiration, de calme devant l'horreur, quoi. Donc, et les arbres étaient toujours là, mais il y avait plus que 3 maisons et on avait une trentaine, tout en briques, avec les allées des vignes. Mais au départ, jusqu'à mon mariage, je suis jamais partie, à vrai dire. Parce que, justement, on s'est marié avec le père de Camilla, Andrés Pascal, et j'avais la petite maison en briques que mon père avait fait là. Donc, et l'enfance, la petite enfance, et la maison qu'il avait construite, comme c'était au départ un architecte très moderniste, les murs qui donnaient vers le jardin, le parc, et où on voyait justement l'enfilé des cerisiers, elle était en verre et des portes coulissantes. Donc, il faut dire que j'avais peur la nuit parce que tout était transparent. La nuit était là, il y avait des tremblements de terre, des menaces. J'étais une petite fille qui avait peur de tout, surtout des araignées. Donc, j'allais me réfugier chez ma grand-mère. Et la maison de ma grand-mère était celle qu'avait bâtie mon grand-père. Et là, les nuits étaient passionnantes parce que ma grand-mère, elle m'a appris à ne pas avoir peur des fantômes ni des morts. Elle dialoguait. Il y avait quelque chose d'assez particulier dans cette famille qu'elle a dû par sa manière de vivre. Elle était travailleuse, elle travaillait avec la gota de leche. Il y avait toujours les gens démunis qui arrivaient chercher le lait. C'était un quartier plutôt de petites fermes et des poblations. C'était pas un quartier riche, c'était pas le centre-ville. C'était, voilà, ce mélange périurbain, on dirait maintenant. Et donc, j'adorais cette maison où finalement, nous, on a déménagé. Mon père, à un moment donné, nous étions 3, j'avais probablement 10 ans, et on a échangé les maisons. Donc, ma grand-mère est venue vivre dans la maison moderne avec mon oncle, qui est devenu le grand défenseur des droits de l'homme en pleine dictature, un philosophe qui m'a appris à découvrir les droits sociaux, la théologie de la libération, Maritain, et qui, plus tard, on parlera de ça plus tard, mais qui était un très, 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 très fort anti-stalinien, parce qu'à Paris, où il avait fini ses études, il avait vu les derniers procès de Moscou, donc il avait suivi cette affaire. Donc, il était celui qui arrivait une fois par semaine dans la maison, là j'habitais donc dans l'ancienne maison, à 2 étages. J'avais la chambre où était morte leur sœur aimée, qui s'appelait Carmen.
Dont vous portez le nom, le prénom.
Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dormir. Parce que j'étais convaincue qu'elle me protégeait. Et donc, voilà. Et mon oncle arrivait avec des livres, Salgari, enfin, donc, qu'il sortait de la maison d'édition où il travaillait, chaud. Et je suivais les aventures, enfin, la passion de la lecture. Bon, c'est une famille particulière.
C'était une famille cultivée. Est-ce que vous diriez bourgeoise, progressiste, libérale? Est-ce que ça correspond à ce que le Chili connaissait? Puisque le Chili était déjà une société assez divisée, hein, fracturée, avec des grandes inégalités. De quel côté situiez-vous cette famille-là?
Je dirais que c'était une famille, bien sûr, bourgeoise, professionnelle, du côté Castillo, plutôt des avocats, des professionnels, bon. Mais Jaime était philosophe, avocat aussi, bien sûr, oui, puisqu'il a repris cette casquette-là pour défendre les prisonniers politiques. Mon père architecte, Du côté de ma mère, c'était la grande aristocratie de la terre. Donc ce couple, Fernando et Monica, a rassemblé des milieux bourgeois qui n'étaient pas très unis. Ils se retrouvaient puisqu'ils se sont retrouvés dans une fête. Donc ça veut dire que c'était le même monde. Mais la particularité des Castillo et du couple Castillo-Echeverría, donc ma mère, comme de la manière d'être de cette grand-mère, de cette famille, était issue, je pense, d'une profonde empathie, affection pour tout ce qui perd, qui souffre. Donc, et il y avait en permanence, les portes n'avaient pas de clé, tout ça circulait. Et je dirais que entre le fait que mon père et ma mère, on puisse dire, c'est des artistes, au sens où plus tard j'ai pensé que les amoureux, les artistes et les révolutionnaires, c'est la même chose. Ils ont une même posture. Donc là, il y avait cette posture où l'argent n'était pas le problème. On manquait pas d'argent, mais on n'était pas là pour en accumuler, pour c'était pas un sujet, c'était pas un sujet parce qu'on manquait pas, je dis pas le contraire, mais à partir de là, ce qui importait, c'était l'autre. Donc l'ouverture au monde, la vision du monde, je dirais que c'était pas la droite classique en termes politiques. Alors, en termes politiques, Jaime Castillo, fondateur de la démocratie chrétienne, issu donc de cette pensée chrétienne de la justice sociale, des droits, de la démocratie. Et mon père, il n'était pas inscrit à aucun parti, ma mère était une rebelle insolente, hors convention depuis toute petite. Donc on n'aimait pas les conventions et s'il a fallu faire une fête pour mes 15 ans, tout a été tellement absurde, drôle. C'était leur fête plutôt que la mienne, moi je détestais tout ça. Bon, c'était une famille plutôt centre-gauche, on dirait, non ?
Carmen Castillo, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de vos parents, justement, de ces deux parents très différents. On a bien compris déjà Fernando et Monica. Pour commencer, est-ce que vous diriez que tous les deux ont été comme des modèles pour vous, chacun avec sa personnalité, son caractère ? Vous écrivez que Fernando est a été le chêne de votre enfance à La Quinta. Il faut peut-être dire qu'à un moment, votre mère est partie pendant un an en Espagne. Vous étiez petite hein, quand oui. Elle est partie travailler, faire des études, voilà, et étudier le cinéma, l'art, enfin
la littérature,
voilà. Le théâtre, tout ce qui lui plaisait. Elle est partie voilà. Pendant un an et vous êtes restée seule avec votre père. Donc, comment, avec les yeux d'aujourd'hui, regardez-vous ces deux parents?
Mon père était mon pilier, le chêne de La Quinta. Ma passion absolue et ses bras m'ont toujours consolée. Ma mère, elle n'était jamais là. C'est comme ça que tous nos enfants peut-être parleront de nous plus tard. Mais notre amitié fondamentale est venue beaucoup plus tard avec ma mère. Et elle était extraordinaire, je peux dire, aujourd'hui, avec le temps. Mais comme mère, elle n'était pas présente. Elle était au théâtre, elle était prof de littérature, elle était comédienne, elle écrivait, elle arrivait à nous chercher à l'école une heure en retard. Voilà, elle n'était pas là. Lui, il était là, selon mon souvenir. Et lui, il m'emmenait partout dans Le matin très tôt, avant d'aller à l'école, ou les fins de semaine, il visitait les œuvres dans les maisons qui étaient en construction. Et je le voyais si beau. Tous les deux étaient très beaux. Et lui, il avait des mains et un regard comme ça, très, très chaleureux jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort dans mes bras et il regardait les yeux grands ouverts, la mort en face. Ça a été un cadeau. Elle était très drôle, plein de sens de l'humour. Elle nous prenait, moi en tout cas, comme un personnage où elle racontait ma vie à des copines de notre lycée. Enfin, je n'aimais pas cette perpétuelle intelligence surtout. Et donc, c'est plus tard que je vais tellement l'admirer, tellement comprendre comment on dirait aujourd'hui, à l'époque on parlait pas de ça, mais qu'est-ce que ça voulait dire, une fille d'une famille de l'aristocratie, qui avait des terres, qui avait été élevée en France, en Suisse, qui était totalement bilingue, qui devait se marier avec un futur président de la République, etc. Qu'est-ce qu'était cette femme qui, à 17 ans, a imposé d'aller à l'université, faire des études comme les classes moyennes? Je vais comprendre. J'aimais bien ma grand-mère, Maria Flora Yáñez, sa mère. Elle était fille d'un très grand politique qui aurait dû être président d'ailleurs, mais qui était maçon radical. Et donc, en tout cas, il n'a pas gagné l'élection, mais il était le grand fondateur du journal La Nation. Bon, Eliodoro Yáñez. Cette femme, ma grand-mère, elle était écrivaine. Ses amis, c'était Neruda, les grands écrivains de l'époque. Les grands salons de thé où les écrivains se réunissaient chez elle. Donc elle était aussi particulière, cette grand-mère très fine, très belle, distante. Bon. Mais ma mère, elle a fait les pas concrets. Donc elle s'est engagée très très jeune dans une vie autonome. Et cette vie autonome passait par la passion de jouer. Donc le sens de l'humour, le jeu, le théâtre, les performances qu'elle a ensuite, plus tard, elle a fait les grandes performances contre Pinochet dans les années, fin des années 70, surtout les années 80, où elle a fait partie d'un mouvement de femmes contre la dictature. Très très drôle, plein d'humour, plein de... Elle est devenue écrivaine. Elle a marqué le mouvement féministe chilien jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez fait un livre ensemble avec votre mère Carmen Castillo qui s'intitule Santiago, Paris, le vol de la mémoire. Un livre à deux voix, mais comme si vous ne vous croisiez pas, en quelque sorte. Il y a le texte de votre mère, et puis entremêlé votre texte à vous, et ces deux générations. Évidemment, c'est passionnant à lire, parce que c'est vraiment deux mémoires, deux façons de voir les choses, évidemment. Deux générations, deux histoires. Et vous écrivez un moment, vous dites à votre mère, parce que quand même vous vous adressez à elle dans ce livre aussi, « Toi, tu as construit ta liberté à la force du poignet. » Moi, on me l'a imposé à la force de l'exil. Et ça dit déjà quand même beaucoup votre différence.
Oui.
C'est ce qu'on verra de toute façon dans la prochaine émission, hein, dans l'épisode 2 de cette À Voix Nue, l'exil et la suite des choses. Mais j'aimerais qu'on termine ce premier épisode, Carmen Castillo, sur quelque chose qui est quand même très fort et qu'on entend dans votre bouche et qu'on entend ne serait-ce que parce que vous parlez français, évidemment, aujourd'hui, puisque vous vivez en France depuis 40 ans et que vous êtes française. Mais ce français, cet amour pour la France, cette représentation de Paris même, à vrai dire, comme un Eldorado, cette francophilie et cette francophonie, c'était aussi quelque chose que votre famille portait.
Complètement. Et c'était très élargi dans la bourgeoisie éclairée, comme on dirait, dans l'intelligentsia et le monde artistique et autres du Chili de l'époque. C'était la France. On lisait en français. J'ai fait mes études au lycée français, à la maternelle, à la, toute mon scolarité. Et il fallait choisir la France. Et ma grand-mère, toute petite, toute jeune femme, avec Monica, ma mère, venait passer 6 mois en France. Les livres qui entouraient ma maison, mes premières lectures infantiles, et c'était la comtesse de Ségur, comme les petites filles de mon âge en France. Ensuite, on allait découvrir, bien sûr, Victor Hugo et les grands romans de l'adolescence. Et ensuite, on allait, on était une groupe de 5 filles, toutes
les Castom.
Voilà.
C'est formé, ce nom formé des lettres de chaque prénom de vos amis.
Oui. On était 5 filles élevées toutes au lycée français au départ. Et notre manière d'être en rébellion contre toute convention à 15 ans était de chanter Edith Piaf, aller au cinéma comme si on avait 20 ans, voir les films interdits français qui arrivaient, avoir partout la carte de Paris, tout, je sais pas pourquoi on marquait la rue Jacob, c'est là où on allait vivre, on allait suivre des études, etc. Et ce groupe de filles, Alejandra, Adriana, Solange, Manuela, Olaya, Carmen et Teresa, non, Trinidad, pardon, très important, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. On rêvait en français, et si on nous retrouvait dans des bals avec des garçons, pour nous distinguer, on parlait entre nous le français. Donc l'importance de la littérature et la musique française et le cinéma français dans ce Santiago des années 60... Et même tout début des années 60, fin des années 50, était extraordinaire. Extraordinaire et une porte de sortie vers les rêves, l'apprentissage de l'amour, la poésie, etc.
C'est ce que vous allez connaître dans un premier temps, Carmen Castillo, en tout cas les rêves, l'amour et la porte de sortie, les échappées. C'est ce qu'on verra dans l'épisode 2 de cette Awa Nue, donc une jeunesse chilienne. On se retrouve pour l'épisode 2, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, merci à vous.
C'était Awa Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Frédéric Quérou, réalisation Anne Pérez Franchini, une série de Caroline Brouet à retrouver et à podcaster sur le site France Culture et l'application Radio France.